La baronne trépassée, deuxième fichier. Chapitre 5. Le baron dormit mal dans le lit misérable qui était cependant le meilleur de l'auberge où il était descendu. Le cauchemar, ce rêve pénible qui suit d'ordinaire les grandes fatigues, l'assaillit pendant plusieurs heures et déroula dans son imagination impressionnée les contes les plus étranges et les plus noires légendes qui écourent dans cette mystérieuse Allemagne, qui, de nos jours encore, n'est point complètement affranchie des traditions superstitieuses et féeriques du Moyen-Âge. Tout à coup, une voix monotone, lente, bizarre, l'éveilla en sursaut. Cette voix disait un chant slavon dont voici le premier couplet. Le vieux châtelain, le sourcil froncé, est encore assis, à minuit passé, dans son grand fauteuil séculaire. Le dernier tison du feu et l'aurore teint l'horizon bientôt. Qu'a-t-il pour se taire et garder ainsi son visage austère, sombre et menaçant, le vieux châtelain? Le vieux châtelain, dans la forêt sombre, à l'heure où le jour s'efface sous l'ombre, aura vu passer sur son cheval noir le veneur tout noir qui nuit et jour chasse, le noir veneur qui jamais ne se lasse, et, le fouet en main du matin au soir, embouche la trompe et poursuit la chasse. On verra demain des morts au manoir. Ce chant s'élevant tout à coup au milieu du silence nocturne et réveillant les échos paisibles des environs, étonna le baron assez vivement pour le faire sauter au bas du lit et courir à sa fenêtre qui donnait sur la cour de l'auberge. À la clarté de la lune, qui frangeait d'argent de gros nuages noirs, affectant des formes étranges et tourmentées, il aperçut un homme occupé à harnacher deux chevaux. C'était le Znappan. Rassuré, le comte retourna à son lit, prit sa montre au chevet et la consulta. Il était à peine 1 heure du matin. « Oh » pensa-t-il, « mon drôle est bien pressé de partir. » Il retourna à la croisée et l'appela. Le Znappan tourna la tête. « Bonjour, mon général, » dit-il. « Puisque vous êtes éveillé, habillez-vous promptement. » « Nous partons bien matin. » « La route est longue. » « En route, donc, » fit le baron. Il s'habilla lestement, descendit sans bruit dans la cour, mit ses pistolets prudemment amorcés dans ses fontes, boucla soigneusement le ceinturon de son épée et se mit en selle. Le Znappan sauta sur la croupe nue de son cheval avec cette légèreté fantastique des cavaliers hongrois ou bohèmes et passa le premier. Ils sortirent ainsi du bourg et prirent un petit sentier rocailleux, inégal, encaissé de haies vives et s'enfonçant d'abord au milieu d'une plaine couverte de bruyères pour aller ensuite courir par rampes brusques et sinueuses au flanc d'une montagne chargée de sapins noirs, qui s'ouvrait tout à coup comme une bouche gigantesque et se trouvait coupée en deux par une gorge profonde se dirigeant au sud-est. Depuis que le baron s'était fait entendre au Znappan, ce dernier avait éteint sa chanson. Et, dominé par d'autres préoccupations, le baron ne prit pas garde à ce silence subit et se laissa aller bientôt, bercé par le pas cadencé de sa monture, à cette rêverie toute mélancolique qui s'empare si facilement du voyageur, la nuit, au milieu des campagnes muettes, paisibles, dont un léger souffle de vent, un oiseau nocturne ou un grillon, trouble seul le silence. La lune, passant successivement derrière les nuages, tigrait plaines et coteaux d'ombres gigantesques et bizarres. Parfois, elle disparaissait complètement, et alors l'obscurité était profonde, et le baron avait toutes les peines du monde à voir 3 pas devant lui le cheval de son guide. Les nuages allaient se resserrant peu à peu. Au moment où les deux cavaliers atteignirent l'entrée de la gorge, ils ne formèrent plus qu'une seule route noire et menaçante. La lune disparut tout à fait, et les ténèbres devinrent si profondes que le baron sentit son cheval frissonner instinctivement sous lui. Tout aussitôt, la voix du Znappan s'éleva de nouveau et continua sa chanson. « Ce veneur maudit a Satan pour père, il est tout puissant, il peut tout sur terre. Il a dans les bois un château d'argent, sa meute est ardente et met hors d'haleine un grand cerf 10 corps en 1 heure à peine. »« Ah, ça, maraud !» s'écria le baron impressionné malgré lui. « Et que me chantes-tu, là ?»«
La légende du veneur noir. »«
Qu'est-ce que le veneur noir ?»«
Vous le voyez bien, mon général, c'est le fils du diable. » »«
Le rencontrerons-nous en route ?» demanda monsieur de Nossac en riant.
« Dieu nous en préserve, mon général. »«
Et pourquoi cela ?»«
Parce que ceux qui voient le veneur noir meurent dans les 24 heures, par exemple. »«
À moins qu'il n'ait une fille à marier.
»« Car on dit qu'il cherche femme, le veneur noir, et qu'aucune noble châtelaine ou paysanne ne veut de lui. »«
Je n'ai pas de fille à marier, mais je cherche femme. » Si le veneur noir en avait une, mordieu, je crois que je l'épouserais. »
Le baron achevait à peine ces mots d'un ton léger, qu'une voix stridente s'éleva dans les profondeurs de la gorge, à 500 mètres devant les cavaliers. Et cette voix, bien autrement accentuée et terrible que celle du znappan, entonna un troisième couplet de la légende du veneur noir, couplet inconnu sans doute au znappan.
Qu'a donc le châtelain que son front est sévère, et qu'à l'heure où tout est calme sur cette terre, où tout dort, il demeure au coin de l'âtre ainsi, qu'un trépassé qui vient de la ronde infernale, qu'au carrefour des bois Satan la nuit étale, et qui se veut asseoir encore une heure aussi au feu de sa maison, et frissonnante et pâle, se réchauffer avant qu'un vert rayon d'opale ait glissé, tremblotant dans le ciel éclairci.
« Quelle est cette voix ?» demanda le baron tressaillant et arrêtant court son cheval. Mais le snappan ne répondit pas, soit qu'il fût dominé par la terreur, soit qu'il n'eût point entendu l'interpellation. La voix reprit.
Le vieux châtelain est sexagénaire. Il a vu passer, en quelque clairière, le cheval d'ébène et le veneur noir. C'est qu'avant la nuit prochaine au manoir, on verra des morts, et que dès ce soir, l'aumônier dira sa morne prière. Ce n'est point cela. Le grand veneur noir est venu naguère heurter au manoir. Il a dit au vieux châtelain, « Ce soir, je veux aimer ta fille une nuit entière. »
« Mais quelle est donc cette voix ?» s'écria le baron de Nossac.
En ce moment, un éclair jaillit de la voûte de nuages qui s'entr'ouvrit. Cet éclair éclaira la gorge 2 secondes, et à sa sinistre lueur, les deux voyageurs aperçurent, immobiles au milieu de la route, un cavalier vêtu de noir, monté sur un cheval noir comme lui, et ayant masque de velours au visage et trompe de chasse sur l'épaule.
« Le veneur noir !»
murmura le snappant d'une voix que l'effroi semblait étrangler.
« Par la mordieu ! »
s'écria le baron frissonnant et voulant dompter chez lui la terreur du danger par le danger lui-même.
« Je veux le voir de près, ce veneur terrible !»
Et il poussa son cheval, qui tremblait sous lui.
Chapitre 6. Le veneur noir, car c'était bien lui, à en juger du moins par l'apparence.
Le veneur noir, disons-nous, demeura immobile au milieu de la route, semblable à quelque génie colossal défendant l'entrée de cette noire et mystérieuse vallée au simple mortel. Il avait en effet une taille véritablement gigantesque, et comme on n'en trouve plus que dans le nord de la Germanie. Son cheval, noir comme lui, parut au baron plus grand et plus fort que les autres animaux de sa race. Mais monsieur de Nossac, s'il avait eu un premier mouvement de crainte, était assez brave pour maîtriser complètement sa terreur et son émotion dans l'espace de quelques secondes. Le temps de galop qu'il fit pour arriver jusqu'au veneur, si court qu'il fût, suffit à lui rendre tout son sang-froid. Et quand il ne se trouva plus qu'à 20 pas, il arrêta court sa monture et cria à l'étrange cavalier.
« Hola, mon maître ! Place, s'il vous plaît !»
Le veneur noir ne répondit pas, mais il poussa son cheval à son tour et vint à la rencontre du baron. Un second éclair entr'ouvrit les nuées, les sillonna rapidement et éclaira les deux cavaliers au moment où ils se trouvaient face à face, leur permettant ainsi de s'observer réciproquement.
« Eh bien !» demanda monsieur de Nossac avec courtoisie, mais d'un ton ferme et froid.
« Votre seigneurie infernale me livrera-t-elle passage ?»«
Ah ah !» ricana le veneur. « Vous paraissez me connaître, mon gentilhomme ?»«
Parbleu, » dit le baron, « on m'a raconté le commencement de votre histoire, et vous venez de me dire la fin, le tout dans une ballade assez joliment rimée. Vous êtes le veneur noir. »«
Tout comme vous, le baron de Nossac. »
Le baron, entendant prononcer son nom, fit un mouvement de surprise et d'inquiétude.
« Bah ! » dit-il, se dominant aussitôt, « il est tout naturel qu'un fils du diable sache par cœur le grand armorial de France. »«
Et vous y avez même, si j'ai bonne mémoire, mon gentilhomme, une assez belle place. Vous datez des croisades, je crois. »
« En effet, votre seigneurie voit-elle quelque inconvénient à ce que je continue ma route ?»«
Mon cher baron, » répondit familièrement le veneur noir, « vous êtes sur la limite de mes terres. Je possède cette vallée et 20 lieues de forêts alentour. J'ai en outre un assez beau castel à 10 lieues d'ici. Vous voyez que je suis un châtelain fort présentable et qui ne ferait nullement une piètre figure à la cour d'un souverain quelconque. » Fût-ce mon cousin de Prusse et de Russie.
Je vous en félicite, fit le baron poliment. Vous avez de superbes domaines. Seulement, s'il m'était permis de vous donner un conseil.
Oh, ne vous gênez pas, je sais par cœur les œuvres d'un de vos poètes du dernier siècle, maître Nicolas Boileau, un homme d'esprit, baron, et qui, je le prévois, sera fort maltraité dans 150 ans d'ici par une école de romantique qui auront le défaut d'avoir plus de génie que de sens. Je me souviens d'un vers assez remarquable. « Aimez qu'on vous conseille, etc. »
Je me permettrai donc de vous engager, monseigneur, à éclairer un peu mieux les routes de votre domaine. Il fait noir ici comme dans une conscience de janséniste.
« Vous croyez ?» demanda sérieusement le veneur noir.
« Et je pense qu'il vous serait facile de distraire un ou deux tisons du brasier où se chauffe sa majesté votre père depuis qu'elle a renoncé à se geler dans le paradis. »«
Mon père a toujours froid, » dit sèchement le veneur. « Et puis ses hôtes sont si nombreux qu'il ne peut les frustrer ainsi. Par exemple, baron, » reprit-il en ricanant. Si, quand vous serez parmi eux, vous voulez me faire cadeau de votre part de feu pour me servir de réverbère et de lanterne, je l'accepterai avec grand plaisir.
Je regrette infiniment que ce ne soit pas tout de suite, répliqua le baron sur le même ton de persiflage, car je crains fort que mon guide ne se casse le cou avant qu'il soit peu, il est si fort effrayé déjà.
Votre guide, baron, est au coin du feu à l'heure qu'il est.
Ah, oh, par exemple,
voyez plutôt.
Un troisième éclair parut obéir à un ordre mental du veneur noir et fit resplendir les roches tourmentées et les sombres taillis de la gorge dans le rayon d'un quart de lieue. Le veneur étendit la main, le baron se retourna, explora la route, examina, chercha, et ne vit plus rien. Le snapan avait disparu. Le baron poussa un cri de surprise.
« Où donc est-il passé ?»«
Il est auprès de ce feu que vous vouliez appauvrir, naguère, pour éclairer mes domaines. C'est un petit diablotin que mon père me prête de loin en loin. »«
Eh bien, » murmura le baron, « me voilà magnifiquement campé. »«
Je vous servirai de guide, mon cher. »«
Vous me laisserez donc passer ?»«
Cela dépend. Oui, si c'est pour venir chez moi. »
Non, si vous voulez continuer votre route.
Mon cher monsieur de l'enfer, dit flegmatiquement le baron, ou vous êtes un mystificateur de bon goût, et alors je vous demanderai la permission de m'assurer si ma rapière est de même longueur que votre couteau de chasse. Ou vous êtes réellement le fils, le neveu ou un parent quelconque du diable, et dans ce cas...
Dans ce cas, baron,
voici une arme qui me délivrera peut-être de vous. »
Et le baron posa la main sur son front et s'apprêta à faire le signe de croix. Le veneur partit d'un éclat de rire. « Mon cher baron, dit-il, j'ai Satan pour père, mais ma mère était une demoiselle de bonne noblesse et catholique. J'ai été baptisé il y a 917 ans, sous le règne de Charlemagne, dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Rengainez donc votre signe de croix. » La main du baron redescendit. « À quelles conditions votre seigneurie veut-elle me laisser passer ? » demanda-t-il. « Je viens de vous le dire, j'ai 917 ans. Une belle et verte vieillesse, comme vous voyez. Mais je m'ennuie prodigieusement. Vous êtes le plus spirituel gentilhomme de la cour de France, et je me suis juré de vous avoir sous mon toit quelque jour. Pouvez-vous refuser cela à un vieillard ? » « Avez-vous du vin passable ? » demanda Nossac avec un calme superbe. « J'ai du Chambertin de 1500, de l'Aï de 1630, du Johannisberg de 1463, et... « Assez, monseigneur, je vous suis. »« Eh bien, dit le veneur noir, en route donc. » Et quoique Satan, mon honoré père, me refuse un tison, nous allons avoir des torches. » Le veneur noir emboucha sa trompe, en tira une puissante et rauque mélodie qui ressemblait assez bien à un de ces ouragans qui courbent sous leur vol bruyant les têtes frémissantes d'une forêt tout entière. Et tout aussitôt, les taillis environnants s'illuminèrent, et une douzaine de cavaliers, aussi rouges que leur maître était noir, surgirent, un brandon de résine enflammé à la main. « Décidément, pensa le baron, j'ai réellement affaire au diable. » Chapitre 7. Les porteurs de torches étaient uniformément vêtus d'une casaque rouge, d'une culotte rouge, et leur visage, masqué comme celui du maître, était pareillement dissimulé sous un loup de velours rouge. À travers ce loup, le baron crut voir étinceler des charbons qui remplaçaient assez bien les yeux. « Oh oh ! » fit-il. « Le veneur noir mentait. Il y a là un atome de la braise paternelle. » Le coup d'œil était réellement infernal, du reste, et il fallait être aussi brave que le gentilhomme français pour n'être point effrayé à la vue de ce colosse noir environné de ses fantômes rouges, le tout éclairé par la lueur tremblotante et sinistre de la résine. Mais le cœur du baron ne battit pas une pulsation de plus, et son front demeura uni et calme. « Mon cher hôte futur, dit-il au veneur noir, je vois que vous avez une maison bien montée, et je voudrais être déjà dans votre manoir pour juger du reste. Nous ne pouvons y arriver que ce soir. Bah, quand on a le diable pour père, on doit bien faire 18 lieues en 2 heures. Sans doute, mais mon nom vous indique suffisamment que je chasse tous les jours, et je veux chasser aujourd'hui. Ah ah. Je compte sur votre habileté de veneur, baron. Vous êtes trop bon 1000 fois. Mes fils font le bois, je vais les appeler. Vous avez donc des fils ? 4, baron. Je vous croyais célibataire, monseigneur. Vous n'avez donc pas entendu le dernier couplet de ma légende ? Et le veneur noir, de sa voix retentissante, entonna les derniers vers de ce chant étrange qui avait appris au baron son existence et sa présence. « Ce n'est point cela. Le grand veneur noir est venu naguère heurter au manoir. Il a dit au vieux châtelain, « Ce soir, je veux être à ta fille une nuit tout entière. »« Sans doute, dit le baron en riant, mais cela ne nous dit point. »« Attendez donc, fit le veneur diabolique. Attendez. » Et il reprit avec un timbre de joie bruyante dans la voix. Le vieux châtelain est mort de douleur. Raide, on l'a trouvé, la main sur son cœur, quand les moines au cloître ont entonné matine. Mais la châtelaine et le veneur noir avaient déjà fui bien loin du manoir. Ils s'aimaient, fit-on, et quand vers le soir résonnent au loin cloches argentines, on entend chanter dans le fond des bois une voix puissante, une forte voix, qui fait trembler les monts et tressaillir les plaines. Une voix qui dit « De la châtelaine, 4 veneurs tout noirs sont issus en 3 fois. »
Ainsi, fit donc le baron avec beaucoup de flegme, votre seigneurie a 4 fils ?
Et 1 fille, mon gentilhomme.
Bon ! S'écria gaiement monsieur de Nossac, me voici rassuré. Je comprends si peu un souper sans femme que je redoutais de sabler vos crus merveilleux en face de vos visages barbus et masculins.
Vous aurez une femme à votre droite, baron.
La fille de votre seigneurie?
Oui, maître.
Ah, ça, est-ce qu'elle est noire comme vous?
Non, pas, elle est blanche.
Tant mieux.
Elle a une dot immense.
Elle est donc à marier?
Sans doute, je vous la destine.
À moi?
À vous, gentilhomme.
Ah, par exemple, s'écria le baron, en voici bien d'une autre, et mes amis de Versailles s'amuseraient de me voir le gendre en perspective du fils du diable.
C'est pour cela, baron, que je vous ai dépêché un diablotin subalterne qui vous a amené ici.
C'était donc un piège?
Du tout, et pour preuve, si vous refusez de devenir mon gendre, il est temps encore pour vous de rétrograder. Je vous ferai reconduire à Marianne Verder, et je chasserai seul.
Le baron hésita une minute. « Et, dit-il, si votre fille est laide ?»«
Si vous la trouvez telle, vous refuserez. »«
Ma foi, dit Nossac joyeux. » Du Chambertin de 1500, du Johannisberg de 1463, et une jolie fille valent bien la peine qu'on tente l'aventure. J'irai jusqu'au bout. Qu'ils viennent du diable ou de Dieu, du paradis ou de l'enfer, le vieux vin et les belles femmes n'en ont pas moins de mérite.
Le veneur noir emboucha sa trompe et en tira une fanfare si puissante et si forte que les taillis et les rochers en tremblèrent, et que les échos prochains ou éloignés la répétèrent avec un mugissant ensemble. Au moment où le dernier écho s'éteignait, la même fanfare recommença en même temps avec une vigueur pareille dans les bois environnants et dans des directions différentes. Tout aussitôt arrivèrent du sud et du nord, du levant et du couchant, 4 cavaliers noirs comme le veneur, masqués comme lui, comme lui la trompe à la bouche, dardant des yeux de flamme à travers l'ébène de leur masque. « Voici mes fils, » dit le veneur. 2 étaient aussi grands que leur père, aussi bien découplés, aussi largement bâtis que lui. Seulement, sous le masque de l'un perçait une barbe déjà grisonnante, tandis que celle de l'autre était d'un noir lisse et lustré qui attestait la jeunesse. Le premier pouvait bien avoir 20 ans de plus que le second. Les 2 autres, moins grands, moins forts, étaient exactement de la même taille, et ils avaient tous 2 la barbe blonde. Ils étaient jumeaux. Ils s'approchèrent l'un après l'autre de leur père, s'inclinèrent devant le baron, et parlèrent au veneur noir dans une langue inconnue qui ne ressemblait ni à l'allemand, ni au slavon, ni au russe, langue entièrement différente de celle que les simples mortels emploient d'un hémisphère à l'autre. « Vent du Nord, » dit le veneur noir à l'aîné, « quelle brisée avez-vous ? »
« Un buffle, mon père. »
« Et vous, vent du Midi ? » fit-il s'adressant au second.
« Un ours, mon père. »
« Et vous, bise d'hiver ? » continua le veneur s'adressant à l'un des 2 jumeaux.
« Un sanglier ?» répondit Bise d'hiver.
Et vous, Brise de nuit?
Un élan.
Oh oh, pensa le baron, voici 4 veneurs qui ont des noms singuliers.
Vous trouvez? Dit le veneur noir répondant à la réflexion mentale du baron.
C'est tout simple, cependant. J'ai appelé le premier Vent du Nord parce qu'il a fait le bois dans la forêt septentrionale. Le second Vent du Midi parce qu'il vient du sud. Le 3e, Bise d'hiver, parce qu'ici le vent d'hiver vient de l'ouest. Et le 4e, Brise de nuit, parce que la laine nocturne qui courbe les taillis arrive de l'Orient. Il a fait la brisée dans la forêt de l'Est.
C'est fort ingénieux, murmura monsieur de Nossac.
Chacun d'eux, poursuivit le veneur, a un nom encore, mais un nom de saint que ma femme leur a donné, et qu'ils ne porteront que lorsqu'un prêtre les aura baptisés.
Oh, hein.
Or,
dit le veneur, je n'ai pu en trouver un encore, tous les hommes qui me voient ayant l'habitude de mourir de peur.
Tiens, fit le baron, est-ce que je serai brave?
Si brave, répondit le veneur noir, que je crois enfin avoir un gendre. Il y a 10 ans que je le cherche.
Ah, ça, demanda le baron inquiet, quel âge a donc votre fille?
25 ans.
Pas plus?
C'est bien assez.
Et, continua le baron, elle est mortelle, hein?
Hélas!
Ah, tant mieux, murmura-t-il, soulagé.
Pourquoi ce tant mieux?
Parce qu'une femme est quelquefois fort ennuyeuse au bout de 8 ou 10 ans, et qu'elle pourrait bien devenir insupportable si elle était éternelle.
Soyez tranquille, dit tristement le veneur noir. Moi seul suis immortel. Mes enfants subissent la loi commune. Et pour preuve, voyez la barbe grise de Vent du Nord. Il a 40 ans. Vent du Midi n'en a que 30. Aussi sa barbe est-elle noire. Brise de Nuit et Bise d'Hiver ont 18 ans à peine, et la leur est blonde.
Très bien, je suis rassuré.
Maintenant, mon maître, continua le veneur noir, il est temps de chasser. Choisissez. Que voulez-vous aujourd'hui? Un ours? Un buffle? Un élan ou un sanglier?
Le baron réfléchit.
Un ours ou un élan, l'un et l'autre me plaisent.
L'un et l'autre, en ce cas.
En un jour?
Parbleu! Dit le veneur en étendant la main vers l'Orient, qu'une teinte mélangée de blanc et d'opale colorait légèrement.
Il est 4 heures à peine, et il ne pleuvra pas, nous avons le temps.
Le baron leva les yeux à son tour vers le ciel. La voûte plombée de nuages sombres qui pesaient, opaque naguère, sur sa tête, s'était déchirée en 1000 endroits, au travers desquels apparaissaient des lambeaux de ciel bleu cendré, et les éclairs qui jusque-là n'avaient cessé de la sillonner s'étaient éteints un à un comme des lampes devenues inutiles. Les torches de son fils avaient sans nul doute engagé Satan à faire des économies d'éclairage.
« Ah, ça !» s'écria M. de Nossac. « Jusqu'à présent, mon cher hôte, malgré tout ce qui se passe de merveilleux autour de moi, je n'ai pu croire à ce rôle de fils du diable que vous jouez si bien. Mais me voici contraint de reconnaître que vous devez être décidément un personnage surnaturel. Quand on commande à l'orage et qu'on disperse les nuées du ciel en quelques secondes...
Et il faut être le diable, ou tout au moins son fils, n'est-ce pas?
Justement.
Puisque vous voulez du surnaturel pour vous convaincre, baron, je vais vous en servir. Nous avons bien ici chevaux et veneurs, mais les chiens nous manquent. Eh bien, vous allez en voir.
Le veneur noir approcha sa terrible trompe de ses lèvres et recommença sa fanfare. Dès les premières notes, il s'éleva dans les taillis voisins et de tous côtés un ouragan sans exemple, un concert infernal d'aboiements, une sonnerie gigantesque de voix aiguës ou sonores. Le baron porta, étourdi, les deux mains à ses oreilles et s'écria « Vous avez donc 10 000 chiens !»« Non, point 10 000 !» Mais 500 ou 600, voyez-vous-même. »
En même temps qu'il s'était bouché les oreilles, le baron avait instinctivement fermé les yeux. Quand il les ouvrit, il aperçut la vallée, qu'éclairaient à demi les torches et les premières clartés de l'aube, entièrement couverte de chiens, tous couplés, divisés en 4 équipages et tenus en respect par des valets entièrement vêtus de blanc, comme les veneurs l'étaient de noir et les porte-torches de rouge. Le premier équipage se composait de 120 matins de Finlande, zébrés de bandes noires et de bandes fauves, hauts comme des ânes, la tête carrée, les dents longues d'un pouce et les yeux sanglants et enflammés. C'était l'équipage de l'ours. Le second, celui du buffle, avait un nombre égal de grands dogues du Cap, entièrement feu et tout aussi haut, quoique moins épais et plus grêles que les matins. Le troisième, celui du sanglier, avait été recruté parmi ces magnifiques chiens séries de Saint-Onge, une des plus belles races des grands chiens d'ordre de l'Ouest. Le quatrième, enfin, qui était l'élan, était bien le plus beau, le plus imposant qu'il se pût voir.
Il se composait de 80 lévriers entièrement noirs, et de cette belle espèce bretonne, presque perdue aujourd'hui, de ces grands lévriers hauts comme des chevaux corses, à la tête longue d'un pied de roi, à l'ongle crochu comme les chats, et que les barons du Moyen-Âge employaient à chasser les paysans, qui, réfugiés dans les bois, refusaient de se soumettre à la glèbe et à la corvée. Le veneur noir rejeta sa trompe sur l'épaule, et les chiens se turent soudain. Le baron les contemplait avec admiration. « Mon hôte splendide, dit-il au veneur noir, ne doterez-vous point votre fille de quelques-uns de ces superbes animaux ?»«
De tous, si vous le désirez, baron. »
« Morbleu ! » s'exclama M. de Nossac. « Je me contenterai d'une pareille dot. Le roi de France me donnerait bien pour les avoir 5 à 6 de ses provinces. »«
En chasse, baron, en chasse, voici le jour qui vient, et je ne veux point voir le soleil. »«
Pourquoi cela ?»«
Parce que nous sommes brouillés, et voilà tout. »«
Mais si vous chassez tous les jours ?»«
Mes forêts sont trop sombres pour qu'il y pénètre. »« En chasse !»
Il reprit sa trompe et se mit en devoir de sonner le départ, mais il s'arrêta aussitôt.
« Baron, dit-il, vous avez un mauvais cheval. Mettez pied à terre, en voici un autre. »
Le baron leva les yeux et vit un magnifique étalon, blanc comme neige, caparaçonné richement et tenu en main par l'un des porche-torches. Il ne se fit point répéter l'injonction et sauta d'une selle sur l'autre sans toucher la terre. Aussitôt, il lui sembla qu'une force inconnue et sans pareille le vissait sur sa nouvelle monture, et que, se resserrant, l'étrier devenait un étau et lui étreignait le pied. Était-ce illusion ou réalité? La fanfare retentit, cette fanfare colossale qui ressemblait à un tremblement de terre. Les chiens furent découplés et s'élancèrent dans la forêt. Les cavaliers bondirent derrière eux. Alors le baron eut le vertige. Il frissonna une fois encore en se sentant emporté par un cheval qui paraissait, tant sa course était folle et rapide, ne point toucher la terre, et en voyant galoper à côté de lui le veneur noir et ses 4 fils s'entretenant entre eux dans leur langue inconnue. Le veneur noir avait dit vrai. Ses forêts étaient sombres, et la rouge lueur des torches, qui couraient en tous sens à travers les arbres, ainsi qu'une ronde échevelée de feux follets et de fantômes, ne suffisait qu'imparfaitement à en éclairer les ténébreuses profondeurs. Les chiens menaient un train d'enfer et semblaient ne plus avoir qu'une seule et formidable voix, tant ils donnaient avec ensemble. De temps en temps, le baron les voyait paraître et disparaître dans le lointain, suivi de près par les cavaliers vêtus de rouge, la torche au poing en guise d'épieu ou de mousqueton, et serrant eux-mêmes de très près un ours gigantesque, qui se retournait parfois, mêlant un grognement terrible et sourd à leur hurlante harmonie. En même temps, la trompe à la bouche, les 5 veneurs noirs sonnaient des bien-allés, non moins retentissants que la fameuse fanfare. Puis le vacarme de la trompe des veneurs, uni aux aboiements de la meute, devint tel que bientôt le délire s'empara de M. de Nossac. Il crut faire un long et pénible rêve. Il assista à la mort de l'ours. Il entendit la lalie et fit la curée de l'élan sans avoir trop conscience de ce qu'il faisait, de ce qu'il entendait, de ce qu'il voyait. Et quand, enfin, après 10 heures de cette course infernale, il vit tout à coup disparaître et s'éteindre les torches, disparaître et s'évanouir comme des ombres les cavaliers rouges qui les portaient, et succéder à la sombre voûte de feuillage sous laquelle il courait depuis le matin, la voûte étoilée du ciel éclairée en plein par les rayons de la lune, il crut sortir d'un lourd cauchemar et avoir dormi un siècle. Il avait passé d'une nuit à l'autre sans voir le jour qui les séparait. Dans le lointain, sur un roc escarpé qui surplombait un torrent, était une masse gigantesque et sombre, tigrée çà et là d'un point lumineux. « Voilà mon castel !» dit le veneur noir en étendant la main. « Il est illuminé, et l'on vous attend. » Chapitre 8. Le baron suivit des yeux la direction que prenait la main du veneur noir.
aperçut et examina rapidement le castel, puis se retourna. Chien, valet, porte-torche, tout avait disparu. À ses côtés galopaient les quatre fils du veneur, qui lui-même marchait en avant. Qu'était devenu cette étrange cohue, ce pêle-mêle sans nom de chiens, de chevaux et d'hommes? Cette solitude subite, ce silence instantané, succédant en quelques secondes à la foule, au tumulte qui l'environnait peu avant, achevèrent de dégriser le baron et lui rendirent tout son sang-froid. « Ah, ça, pensa-t-il, j'ai décidément bien affaire au diable, il n'y a plus à en douter. Ce qui se passe autour de moi est plus que surnaturel. » Malgré leurs 10 heures de steeplechase, les chevaux ne paraissaient nullement hors d'haleine. Ils galopaient toujours avec une fantastique vitesse. L'espace d'une lieue qui séparait le château de la lisière des forêts fut franchi par eux en 18 minutes environ, et ils s'arrêtèrent bientôt au bord du torrent, qui rongeait et polissait le roc sur lequel il était fièrement campé. Ce torrent était large, profond, et roulait avec un lugubre fracas. Le baron n'aperçut aucun pont d'abord, mais avec plus d'attention, il finit par remarquer un tronc de sapin jeté en travers, joignant les deux rives par son étroite superficie.
« Est-ce que nous allons passer là-dessus ? » demanda-t-il avec un certain effroi,
car l'eau mugissait à 2 toises au-dessous avec un bruit sourd qui eût glacé d'épouvante les plus hardis.
« Parbleu ! »
répondit le veneur noir en poussant vigoureusement son cheval, qui posa un pied assuré sur l'étroite plateforme et s'y engagea au trot. Après le père, passèrent les 4 fils. Le baron n'hésita plus. Il éperonna sa monture, qui, elle aussi, passa au grand trot et sans broncher au-dessus de l'abîme. Alors, quand tous les 5 eurent touché l'autre rive, le veneur noir se retourna, et sans quitter la selle, se baissa jusqu'à terre, comme ces écuyers du cirque qui, au galop, sans s'arrêter, ramassent un bâton dans l'arène. Se cramponna d'une main au pommeau, saisit de l'autre extrémité du tronc de sapin, le souleva malgré son poids énorme, le balança 1 seconde dans le vide, puis le rejeta dans l'abîme, où il alla décrire un moulinet effrayant et s'engloutir avec un strident fracas.
« Nous voici chez nous !»
dit tranquillement le veneur noir. Le baron admira, en frissonnant, cette force herculéenne, puis regarda devant lui. Il était sur une sorte de terrasse de 2 mètres environ de largeur, au pied d'un rocher à pic, supportant la masse imposante du château.
« À moins que les chevaux de l'enfer n'aient des ailes, » pensa M. de Nossac, « l'ascension sera difficile. »
Mais le veneur noir reprit la tête du cortège, fit 10 pas à gauche et se trouva à l'entrée d'une sorte d'escalier à marches étroites, presque perpendiculaires, qu'un piéton n'eût gravi qu'en se signant à plusieurs reprises avec dévotion. Néanmoins, le cheval du fils du diable posa résolument les pieds de devant sur la première marche, puis sur la seconde, et commença à monter d'un pas rapide, arrachant au roc poli des myriades d'étincelles, sans jamais broncher, et comme si des crampons d'acier eussent subitement poussé à ses sabots garnis de fer.
« Bon, » pensa le baron qui commençait à se familiariser avec cette succession de prodiges,
il paraît que mon hôte tire ses chevaux des écuries de son père. L'enfer seul en peut produire de pareils. » Cette fois, au lieu de fermer le cortège, il devança les 4 fils du veneur noir et s'avança après lui vers la première marche du rez-d'escalier. Le cheval monta sans nulle hésitation.
« Il y est habitué, » se dit Monsieur de Nossac.
L'escalier avait 297 marches. Les chevaux les gravirent en 10 minutes, et bientôt le baron et ses hôtes se trouvèrent sur une 2e plateforme de laquelle surgissaient les murs du château. C'était un gothique manoir, avec fossés profonds taillés dans le roc vif, tourelles élancées et pointues, sveltes clochetons, ogives nerveuses et fines, créneaux noirs et lourds, beffrois gigantesques, toitures moussues, murs épais, machicoulis formidables, girouettes rouillées grinçant en pleurant aux brutales caresses du vent nocturne,
écussons gravés sur le fronton de la porte principale et souterrains long d'une lieue, creusés à travers la roche et correspondant mystérieusement avec les forêts et les plaines d'alentour. Le baron, qui se piquait d'archéologie, examina attentivement le château et le trouva assez pur de style, à l'exception toutefois de quelques anachronismes légers qui disparaissaient assez bien dans l'ensemble. De nombreuses lumières brillaient derrière les vitraux de couleur des fenêtres ogivales. Des ombres opaques ou demi-diaphanes passaient et repassaient, rapides, derrière ces mêmes vitraux. Mais aucun bruit, aucun souffle, aucune parole n'annonçait la vie et le mouvement à l'intérieur. Le château était silencieux comme une tombe. Le veneur noir s'arrêta devant le pont-levis, qui était relevé, emboucha la trompe et en tira les trois appels usités au Moyen-Âge parmi les chevaliers errants qui demandaient l'hospitalité à une heure avancée de la nuit. La herse du pont s'abaissa en criant et le veneur passa. Ils arrivèrent tous les cinq dans la cour du manoir. La cour était déserte. Le veneur mit pied à terre, ses fils l'imitèrent et le baron fit comme eux. « Venez, baron, » dit le veneur en le prenant par le bras, « je meurs de faim. » Il sembla à celui-ci que la main du veneur était brûlante et l'étreignait comme un étau. Il se laissa entraîner et gravit côte à côte avec lui les marches du perron. Les quatre veneurs montèrent derrière eux. « Et les chevaux ?» demanda tout à coup le baron en se retournant. Les chevaux avaient disparu sans qu'aucun palefrenier s'en emparât. « Morbleu !» pensa M. de Naussac. « Mon aventure prend des proportions telles que si jamais je la compte à Versailles, Richelieu lui-même n'y voudra point croire. » La porte du manoir s'ouvrit lentement, comme s'était abaissé le pont-levis, sans que nul parût. Le veneur noir en franchit le seuil, tenant toujours le baron par le bras, et ils entrèrent dans un immense vestibule éclairé par quatre torches fixées au mur. Au milieu était un large escalier à marches de marbre noir, semé de larmes blanches, comme le champ d'armes de l'écusson. Le veneur noir et son hôte gravirent cet escalier, prirent à droite. Arrivés au premier repos, ils entrèrent dans une pièce non moins vaste que le vestibule, pareillement éclairée, étendue de noir avec des larmes d'argent. Ils traversèrent cette pièce, puis une autre et une autre encore, tendue de même couleur, et ils arrivèrent ainsi à la salle à manger du manoir. Cette pièce était, tout au contraire des autres, tendue de blanc avec des larmes noires. « La variété lacrymale me plaît, » murmura le baron. Au milieu de cette pièce était dressée une table somptueuse sur laquelle fumaient les mets les plus exquis et miroitaient des vins si clairs, si brillants de coloris, qu'il était facile de voir que le châtelain n'avait point menti sur la date. Aucun valet ne se présentait, la salle était déserte. Seulement, dans un coin, sur une estrade de velours noir, était un cercueil. À sa vue, le baron fit un pas en arrière et frissonna. « C'est le cercueil de ma femme, » dit froidement le veneur noir. « Elle est donc morte ?»« Depuis 10 ans. »« Et elle est là ?» « Oui, sans doute, voyez. » Le veneur entraîna le baron, qui le suivit sans résistance. Il le conduisit vers le cercueil et souleva le drap mortuaire. Une femme, jeune à en juger par l'ébène de sa chevelure ruisselante en boucles lustrées sur la neige du linceul, belle si l'on examinait le bas du visage, car un masque, pareil à celui des veneurs, en cachait la partie supérieure, était couchée, immobile et froide, dans le cercueil. On eût dit qu'elle dormait, tant son bras avait conservé de molles souplesses dans les articulations, tant, sous sa peau transparente, étaient visibles encore ses veines bleues, qui paraissaient renfermer un sang en pleine circulation. « Mais elle n'est point morte, c'est impossible !» s'exclama le baron. « Elle est morte, depuis 10 ans. »« 10 ans ? Et elle est ainsi conservée ?» « C'est mon père qui l'a embaumée. »« Mais quel âge avait-elle donc ?»« 70 ans. »« On lui en donnerait à peine 30. »« Mon père l'a refaite ainsi en l'embaumant. »« Il était de belle humeur ce jour-là. »« Et vous la laissez là ? Vous ne l'inhumez point ? » ?»«
Non, dit le veneur, car il faut pour la porter en terre une main de chrétien.
Vous l'êtes, il me semble.
À moitié seulement, il faut un chrétien tout pur. J'ai songé à vous.
Nossac frémit et se regarda dans une glace de Venise placée en face de lui. Il était fort pâle et ses lèvres tremblaient.
« À table, baron !» dit le veneur noir. « J'ai faim !»
Nossac se dirigea vers la place que lui indiqua son hôte. Les quatre fils se placèrent les uns à côté des autres, et alors le baron remarqua qu'une place était vide à côté de lui et une autre à côté du veneur. La porte s'ouvrit au même instant. Une femme entra. C'était une jeune fille de 24 à 25 ans, blonde dorée, éblouissante, avec de grands yeux bleus, emplis d'une vague et suave longueur, une bouche rose, mignonne, garnie de perles, de petites mains frêles, diaphanes, effilées, un pied de fée qui effleurait le sol à peine, une taille souple, svelte, pleine d'amoureuses ondulations. À sa vue, le baron poussa un cri d'admiration. Oublia cette erreur de la journée, le veneur noir, ses fils silencieux et mornes, ce cercueil placé en face de la table, comme pour leur enlever l'appétit et leur défendre toute joie. Il ne vit plus, il n'entendit plus que la jeune fille, qui fit le tour de la table et alla poser ses lèvres roses sur le front d'ébène de son père en lui disant « Bonjour, cher veneur noir, mon père !» Puis elle alla à chacun de ses frères, leur mit également un baiser au front en leur disant bonjour par leur nom. Elle s'inclina profondément ensuite devant le baron et revint s'asseoir à la droite de son père. « Voilà votre femme !» dit le veneur noir. Le baron crut voir, au milieu de ses hôtes infernaux, le ciel s'entr'ouvrir devant lui. Mais son ivresse fut glacée et refoulée soudain au plus profond de son cœur par une voix qui retentit à l'extrémité de la salle, fraîche, sonore, quoique emplie d'un accent railleur. Le baron leva vivement les yeux, vit le drap mortuaire qui recouvrait le cercueil soulevé et la défunte assise sur son séant. « Baron de Nossac, disait la morte, puisque vous devez me porter en terre, vous ne refuserez pas de me servir de cavalier ce soir et de me conduire à table. Venez me donner la main. » Le baron sentit ses cheveux se hérisser, tandis qu'une sueur froide inondait ses tempes. Vainement, il appela à son aide sa présence d'esprit et son sang-froid, et il fut inévitablement tombé à la renverse, si son œil éperdu n'eût rencontré l'œil fascinateur, l'œil céleste et suppliant de la jeune fille, qui semblait lui dire « Obéissez !» Alors il sentit son effroi s'en aller. Il se leva et marcha résolument vers la morte, qui descendit, impassible et raide, de son cercueil, et il s'inclina devant elle avec une courtoisie qui sentait le meilleur temps de Versailles. « Merci !» dit la trépassée en plaçant sa main glacée dans la main du baron, qui tressaillit et frissonna de nouveau à ce contact. Chapitre 9. La trépassée s'appuya sur le bras tremblant du baron et marcha vers la place vide qui lui était sans doute réservée, avec la lente rendeur d'un automate. Elle s'assit à la droite de son cavalier et lui dit « À table, monsieur le baron !» Votre appétit a dû être mis à l'épreuve une journée de chasse.
En effet, balbutia monsieur de Nossac.
Le veneur noir prit alors son couteau de chasse, qui pendait encore à son flanc, dépeça avec une habileté prodigieuse le quartier de venaison qui fumait sur la table, puis en envoya un morceau à chacun des convives, commençant par le baron, suivant la mode hospitalière d'Allemagne, au lieu d'obéir à l'usage français et de servir les dames tout d'abord. Monsieur de Nossac était ému, sans doute, mais la terreur ne le dominait jamais assez complètement pour lui enlever sa dernière parcelle de sang-froid. Il s'aperçut donc de ce manque de galanterie et le corrigea de son mieux en offrant son assiette à sa voisine, la trépassée.
« Merci, » répondit-elle d'une voix glacée.
Elle plaça l'assiette devant elle, mais n'y toucha pas. 5 minutes après, l'un des fils de la morte, celui qui se nommait Vent du Nord et qui était le plus vieux,
se leva gravement et vint enlever l'assiette pleine encore, qu'il remplaça par une autre également chargée. Le baron de Nossac croyait rêver, et n'eût été le rayonnant visage de la jeune fille qui lui souriait de temps en temps d'un air ingénu et candide, il eût certainement douté de sa propre existence. Le repas avait une couleur funèbre, en parfaite harmonie avec les tentures de la salle et ses étranges hôtes. Le veneur noir mangeait avec une gloutonnerie tudesque, ses fiches l'imitaient assez bien. Seule la jeune fille effleurait à peine son verre et l'aimait qu'on lui servait, comme un oiseau coquet et mignard, qui, se trouvant dans la même volière que des hiboux voraces, des orfraies affamés, leur voudrait donner une leçon de délicatesse et de savoir-vivre en picorant à peine çà et là quelques menus grains de mil. Quant à la châtelaine trépassée, elle ne mangeait pas. Mais chacun de ses fils venait à tour de rôle renouveler son assiette et changer son verre. Le baron, un moment dominé par la terreur, reprit peu à peu son sang-froid railleur et finit par en revenir à son idée première, c'est-à-dire qu'il était le jouet d'une mystification terrible qu'il lui fallait supporter à tout prix d'abord, afin d'en triompher ensuite. Aussi, le doux regard de la jeune fille l'aidant, il prit la parole le premier et dit au veneur noir « Vous êtes, mon cher hôte, silencieux comme la tombe de Madame la Châtelaine. »«
Vous trouvez ?»
fit le veneur d'un ton farouche, qui donna à comprendre au baron que la plaisanterie était déplacée. En même temps, quatre éclairs jaillirent simultanément des quatre masques des fils du veneur, et le front de la jeune fille s'assombrit d'une mélancolie grave et triste. Le baron comprit qu'il avait fait une faute et se tut. Mais la trépassée, qui gardait le silence depuis 10 minutes, jugea de son goût de le rompre, et elle dit au baron « N'êtes-vous pas veuf, monsieur de Nossac ?» À cette brusque question, faite d'un ton railleur, le baron tressaillit et jeta un regard effrayé à la trépassée. Sous le masque de celle-ci, bruissait un rire sourd et moqueur, tandis que ses yeux froids et ternes comme des yeux de mort reluisaient ainsi que des poignards au travers de ce même masque. Monsieur de Nossac rencontra ce regard glacé et son tressaillement redevint de la terreur.
« Où avez-vous pu apprendre ? » balbutia-t-il.
« Les morts savent tout. »
« C'est juste, » murmura le baron, « mais cependant... »
Et je connais même votre femme. »
Monsieur de Nossac fit un soubresaut, et, pâle, la voix étranglée, il se fût, sans nul doute, levé de table si la main glacée de la trépassée ne se fût appuyée sur la sienne pour le retenir.
« Restez donc, » fit-elle avec lenteur. « Vous êtes pétulant comme tout gentilhomme de la cour de France, et vous oubliez que nous sommes ici sur les frontières de Hongrie. »
La sueur de l'angoisse perlait aux tempes du baron. Il écoutait la voix de la trépassée avec cette attention morne et désespérée d'un condamné écoutant sa sentence de mort. À mesure que cette voix bruissait, métallique et raide comme le timbre d'airain d'une horloge, il lui semblait qu'il l'avait entendue quelque part.
« Vous êtes veuve d'une femme assez belle, disait-on à Paris, poursuivit la trépassée. « Et qui même vous a laissé une grande fortune, dit-on encore. »
Le baron tremblait de tous ses membres et regardait la morte avec stupeur.
« Ne vous étonnez point de me voir si bien instruite, monsieur le baron. Mon époux que voilà a dû vous dire que j'étais la bru de Satan, et Satan sait tout, comme bien vous pensez. »
Monsieur de Nossac ouvrit la bouche et voulut parler, mais aucune parole ne put se faire jour à travers sa gorge crispée. La châtelaine défunte continua.
« La baronne de Nossac, votre femme, a, paraît-il, fait un singulier testament. Elle vous a imposé, dit-on, l'obligation de vous remarier dans le délai de 2 années, sous peine de voir sa fortune retourner à ses héritiers naturels. »
Cette fois, le baron n'y tint plus, et, l'œil hagard, le visage contracté par la peur, il s'écria.
Êtes-vous la baronne elle-même qui vient me reprocher ma lâche conduite et sort de la tombe pour me railler ?» La trépassée répondit par un éclat de rire. « Mon cher baron, dit-elle, je commence à croire que le remords vous trouble assez fort l'esprit pour vous montrer en moi cette femme. »
« Vous avez sa voix.
Vous trouvez ?» Et le rire moqueur et glacé de la morte bruit de nouveau avec un timbre lugubre dans cette salle funéraire. Une fois encore, le baron voulut se lever et fuir, mais la main de la morte le cloua, immobile, sur son siège. « Baron, fit la châtelaine, vous êtes fou et je vous pardonne, en considération du lieu où vous êtes. Mais croyez bien une chose, c'est que si j'étais votre femme, comme vous le prétendez, j'aurais ôté mon masque déjà pour vous montrer mon visage. La reconnaissance serait au moins curieuse. » La trépassée allait au-devant de l'objection qui errait sur les lèvres du baron. Mais M. de Nossac était avant tout l'homme des interpellations brusques et de la spontanéité. « Madame, demanda-t-il, pourquoi ne l'ôtez-vous point pour me rassurer ?»« Parce que je ne le puis, ni mon époux, ni mes fils. Et pourquoi ?»« Et si vous avez bien réfléchi aux sinistres paroles de la légende du veneur noir, vous aurez remarqué que la vue du veneur frappe de mort tout ce qui est humain. »
« Je l'admets pour le veneur et ses fils, mais vous... »«
Mon époux m'a communiqué le même et fatal privilège. »«
Mais votre fille ?»«
Ma fille seule est exempte de ce don funeste. C'est une bizarrerie de son aïeul qui l'a voulu ainsi. En revanche, si jamais nous nous démasquions devant elle, elle mourrait sur le coup. »«
Cordieu ! »
s'écria le baron, réussissant enfin à dominer complètement son effroi, et pris soudain d'un accès d'audace chevaleresque. « Je veux avoir le cœur net de tout cela. Si mademoiselle, » et il désigna la fille, « si mademoiselle veut consentir à s'éloigner, je demande, moi, à vous voir tous les six le masque bas, et je m'engage à vous regarder en face, votre visage fût-il aussi effrayant que celui de Satan lui-même. » « Prenez garde, baron, » murmura la morte, dont la voix railleuse timbra soudain d'une nuance de menace.
« Je m'appelle Nossac !» répondit fièrement le baron.
Le veneur noir et ses quatre fils échangèrent un menaçant regard, mais ne dirent mot. « Eh bien, dit la trépassée, offrez votre main à ma fille et conduisez-la dans la pièce voisine. Vous reviendrez seule, si vous l'osez. » Ne l'eût-il point osé deux secondes auparavant que M. de Nossac s'en fût senti le courage maintenant qu'il avait à toucher la main de cette éblouissante jeune fille dont le sourire l'enchantait. Il se leva donc résolument, alla vers elle et lui offrit son bras. La jeune fille avait soudain pâli, mais la morte lui dit impérieusement « Allez !» Et elle se leva à son tour et mit sa main blanche dans les mains du baron. Cette main tremblait. « Venez, mademoiselle, » dit Nossac, dont la voix s'altéra de nouveau sous le poids d'une indicible émotion. Et il marcha lentement, comme s'il eût voulu prolonger le plus possible ce trajet si court et sentir la main de la jeune fille dans sa main. Ils sortirent ainsi de la salle et entrèrent dans la pièce voisine. Là, Nossac s'arrêta, hésitant.
« Venez, venez !»
murmura la jeune fille en l'entraînant encore. « Allons un peu plus loin !» Ils traversèrent la deuxième pièce et pénétrèrent dans la troisième. Dans celle-là était un vaste sofa en velours noir, parsemé comme les tentures de larmes blanches. Le baron y conduisit sa compagne, l'y fit asseoir, puis recula d'un pas pour la saluer. Soudain, la jeune fille joignit les mains avec un geste de prière.
« N'y allez pas !»
murmura-t-elle. Un fin sourire glissa sur les lèvres du baron. « J'irai, » dit-il.
« Vous en mourrez !»«
En êtes-vous bien sûr ?»«
Oui, oui !»«
Eh bien, écoutez-moi. »«
Que voulez-vous »
fit-elle avec un regard charmant de coquetterie suppliante. « Vous a-t-on dit que j'étais l'époux qu'on vous destinait ?»«
Oui. » »«
Cela vous afflige-t-il ? » La jeune fille hésita.
« Non. »
dit-elle enfin.
M'aimerez-vous ?
Elle hésita encore.
« Je ne sais pas, » fit-elle.
« Eh bien, si vous ne voulez pas, quelque grand, quelque terrible que soit le danger, si vous ne voulez pas que j'y succombe, dites un seul mot. »
Elle le regarda étonnée.
« Un mot qui me serve de talisman, un mot qui me couvre comme une égide, » reprit-il avec feu. Elle le regarda une fois encore, mais son étonnement avait fait place à la prière. « N'y allez pas, » fit-elle.
« Je serais un lâche si j'hésitais. »«
Mais vous allez à la mort. »«
Peut-être, si vous me refusez ce mot. »«
Non, à coup sûr, s'il s'échappe de vos lèvres. »«
Eh bien, » fit-elle en prenant sa main.
« Eh bien !»
Elle s'arrêta et rougit.
« Eh bien ? »
interrogea-t-il avec angoisse.
« Eh bien !» reprit-elle. « Monsieur le baron de Nossac... » Une fois encore, elle s'arrêta, pleine d'hésitation.
« Oh, dites !» demanda le baron, joignant les mains avec un geste et un regard suppliant.
« Je vous aime !» murmura-t-elle en cachant son front dans ses doigts entrelacés.
« Merci !» s'écria le baron. Il entoura sa taille avec son bras, mit sur ce front qui rougissait un baiser ardent, puis, la main à la garde de son épée, la tête haute et fièrement renversée en arrière, il marcha d'un pas ferme vers la salle du festin, où l'attendaient ses terribles convives. Et, arrivés à la porte, il la poussa sans hésiter.